et bienvenue dans le Jardin des mots. C'est avec plaisir que nous reprenons cette émission qui devrait être mensuelle et qui est quelquefois de petites entorses. Aujourd'hui, nous recevons une libraire. Donc bonjour Emmanuel Trochon.
Bonjour.
Qui représente donc la Maison de la Presse à Digne, la librairie de la Maison de la Presse à Digne-les-Bains. Et pour ouvrir cette émission, on va parler juste une petite seconde des mots. Et je vais vous lire un conte qui s'appelle « La magie des mots » pour voir combien les mots ont de force. C'est ce que nous disons tout le temps dans ces émissions. Voilà, la magie des mots. Une femme sans âge, l'œil terne, les pommettes sèches, se lamentait, vaincue. « 3 cancers, madame, j'ai eu 3 cancers. » Bah oui, bien sûr, vous les avez eus, mais eux, ils ne vous ont pas eus et ils ne vous auront pas. Et soudain, les joues reprennent vie, le sang circule, les yeux brillent. Elle jubile et répète à son compagnon, « Ils ne m'ont pas eu, mais moi, je les ai bien eus. » Et croyez-moi, si vous le voulez, mais elle chante encore aujourd'hui ce refrain victorieux. Magie des mots, pour que les mots passent, on a besoin de livres. Pour que les livres soient présents, on a besoin de libraires. Et donc, on va rentrer aujourd'hui dans le monde de la librairie par une porte un peu particulière, puisque nous verrons peut-être plus tard ce qu'il est convenu d'appeler les librairies traditionnelles, hein, avec le label Lire, etc. Mais aujourd'hui, on parle d'un accès premier, donc la Maison de la Presse. Et je vais donc vous laisser faire connaissance avec Emmanuel. Alors Emmanuel, le monde de la librairie, des structures très très variées, des grandes, des petites, des microscopiques, des tout ce qu'on veut. Donc vous nous dites un petit peu, vous nous présentez votre librairie ?
Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes une maison de la presse, une maison de la presse qui, bien naturellement, vend quotidiens nationaux, régionaux, ainsi que des magazines, mais une enseigne aussi qui offre à ses clients tous les derniers best-sellers parus. Et j'insiste sur le fait qu'elle offre tous les best-sellers parus, mais que nous essayons d'en offrir davantage. Et pour satisfaire, bien sûr, une demande très, très diversifiée, puisque la presse, le tabac aussi que nous vendons, attire une clientèle de tout âge, de toute catégorie, de tous les mondes, et ainsi que des touristes aussi, des vacanciers, des étrangers. Et nous avons un but, c'est d'avoir un grand choix en librairie.
Un grand choix en librairie et donc un accès qui est quand même beaucoup plus facile puisqu'on passe le seuil de la maison de la presse quand même plus facilement que le seuil d'une librairie réputée un peu austère, et c'est pas tout à fait la même démarche, même si à l'intérieur les livres sont quand même de familles identiques.
Oui, c'est vrai. Au départ, la démarche est de venir acheter son journal, de venir acheter son magazine. Mais nous sommes fait quand même une petite réputation d'avoir un grand choix de livres aussi.
C'est vrai, et de belles tables qui sont régulièrement variées, renouvelées. Donc on a plein de questions quand on a le plaisir de rencontrer un libraire comme ça. Des questions qui vont de « mais comment on achète des livres ? Comment vous choisissez vos livres ? Comment vous présentez vos livres ?» Donc peut-être le parcours du combattant d'une journée d'un libraire ? Chiche.
Oh, oui, on peut essayer. Il n'y a pas une journée type pour le libraire. C'est surtout, la journée type est pour la personne qui travaille le matin à réceptionner la presse, puisque tous les jours, nous recevons des journaux. Et le libraire arrive et doit, bien sûr, recevoir le représentant d'une maison d'édition, de plusieurs maisons d'édition. Il va choisir les livres avec lui. Ce représentant va lui parler de toutes les nouveautés à venir, de tout ce qui pourrait intéresser aussi notre région, parce que dans la librairie, nous avons aussi la librairie régionale, provençale, les auteurs régionaux, la culture régionale. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'aide des représentants est très importante. Donc, grâce à eux, nous arrivons à choisir un certain nombre de livres. Puis, nous avons aussi un autre travail qui est de commander donc ces livres, de gérer le stock en librairie, de faire tourner les livres, c'est-à-dire que un livre, on ne doit pas le laisser vieillir trop longtemps.
Tout à fait, de gérer les retours.
Et puis aussi, donc, en même temps, de faire attention à la clientèle qui tourne et qui regarde justement tous ces livres. Donc, il est important pour nous de les mettre en avant, par thème, éventuellement, si on y arrive, si on a quand même la superficie qui nous le permet. Et de les mettre en avant aussi en vitrine pour présenter...
Oui, vous faites des vitrines thématiques, ce genre de choses.
Donc nous avons la vitrine de nouveautés, donc de rentrée littéraire, de nouveautés. Oui. Toutes les semaines, hein, il en paraît des livres.
Eh oui.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, beaucoup de titres.
Et le choix est très difficile. Alors, pour faire une petite coupure tout de suite, un petit peu pour détendre tout le monde, parce qu'Emmanuel est très, très ému, on va dire.
Très impressionné.
C'est pas facile, impressionné. Moi, je vous propose d'écouter un tcha-tcha-tcha de la libraire, justement, qui va nous ramener quelques années en arrière.
Moi, je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde, aux châtains, aux bruns, aux requins, aux filles brunes, aux femmes blondes, aux hommes des romans d'amour, aux femmes des nouvelles tristes, aux enfants des livres du monde où les magiciennes existent. Je vends des fictions, des rêves, des histoires vraies, des reportages, des essais et des témoignages, des romans longs, des nouvelles brèves. J'aide les amants à choisir des livres pour leur fiancé, un livre qui pourra leur définir à quel point elles sont aimées. Moi je vis parmi ces bouquins que je diffuse dans le monde, et puis ils passent de main en main, répandant l'amour à la ronde. Aux garçons bruns, aux filles blondes, ils portent l'amour dans le monde. Que dites-vous de celui-là?
Je ne crois pas qu'il pourra lui plaire.
Et pourquoi pas cet autre-là? Ça se passe au bord de la mer.
Vous l'avez lu?
Évidemment,
ça lui plaira.
C'est assuré, il suffit de voir son amant. Venant de vous, il est parfait.
Mais comment pouvez-vous le dire?
Je vous ai regardé sourire. C'est dit, vous le prenez.
Yes, hold on a moment, please.
Eh bien, on a vu qu'il y en avait des choses à faire. Hein. Il y en a franchement beaucoup, beaucoup de choses à faire. À partir du moment où le livre rentre dans votre magasin, dans vos stocks, jusqu'au moment où... qu'est-ce que vous en faites après des livres qui ne sont pas vendus parce que les murs ne sont pas extensibles? Les livres, il en arrive tous les jours, vous venez de nous le dire. Donc, il y en a qui sont vendus, il y en a qui ne le sont pas. Et pour mettre les autres en place, qu'est-ce qu'on fait alors?
On doit commencer à faire un stock pour les retourner à l'éditeur, au distributeur. Parce que les maisons d'édition sont regroupées pour nous, quand on veut passer une commande de livres, chez des distributeurs. Et ces distributeurs, c'est à eux qu'on doit renvoyer le stock de livres. Et tout ce stock de livres, malheureusement, pour la plupart... Si j'ai bien compris, ils sont détruits. Ils passent au pilon, comme ils disent.
Ils passent au pilon, comme ils disent. C'est le début d'une chanson, ça. Mmh. Et si j'ai bien compris, ça vous blesse encore terriblement. Ça serait un gros coup de gueule, ça. Mais qu'est-ce qu'on en ferait de ces livres?
On pourrait les donner, on pourrait les distribuer ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient découvrir, qui aimeraient lire, qui n'ont pas les moyens de le faire, Il y a des associations humanitaires qui pourraient les reprendre et les amener dans un certain nombre de pays. Bon, peut-être que la lecture en français ne serait pas si facile, mais il y aurait beaucoup de choses. Je pense que le coup de gueule, justement, il est là. C'est que c'est purement commercial et que je préfère perdre des livres plutôt que de les donner. C'est quelque chose qu'ils ne vendront pas. Donc,
c'est assez extraordinaire. Dans cette émission, je crois que finalement, on fait le choix de... On invite des utopistes, quelque part.
Oui,
c'est toujours...
C'est ce que me dit mon mari aussi.
Pour moi, c'est un bonheur, parce que c'est vrai que le circuit du livre est ainsi fait, hein, qui va de l'auteur au livre au lecteur. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des accros comme ça. Pas très, très facile. Alors, pour en arriver à ce métier, Emmanuel, vous êtes passé par où? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes arrivé dans la librairie et dans cette librairie dinoise?
Alors, c'est le pur hasard. Je ne me destinais pas du tout au métier de libraire ni de commerçante. J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, quand j'étais enfant. Mes parents m'ont donné la possibilité de lire beaucoup, puisqu'eux-mêmes lisaient beaucoup. Et la lecture me plaisait. Mais je suis partie hôtesse de l'air. Je me suis évadée différemment. J'ai découvert d'autres horizons. Et un jour, je suis arrivée à Digne. Et à Digne, j'ai rencontré mon mari qui tenait donc cette librairie qu'il avait racheté à monsieur et madame Sicard, nos prédécesseurs, et il m'a progressivement intégré, il m'a fait découvrir le monde du commerce, et puis pourquoi pas, parce que quand je suis rentrée, j'ai vu tous ces livres, et bien ça ne m'a pas déplu, je me suis dit tiens, je vais pouvoir lire beaucoup, je vais pouvoir avoir un choix fabuleux, ça m'a...
Ah oui, et puis infini quelque part, hein, oui, puisqu'il se renouvelle tout le temps. C'est amusant ce que vous venez de dire, parce que ça me renvoie à une phrase d'Eric Orsena qui a dit « Lire ressemble à regarder l'horizon. » Pour une hôtesse de l'air, c'est quand même pas mal. Oui. Et d'abord, on ne voit qu'une ligne noire et puis on imagine les mondes. C'est pas mal, hein ? Ce qui m'a amusée aussi, c'est que vous étiez hôtesse de l'air lorsque vous l'avez dit avec un accent relativement neutre et presque parisien. Et pour revenir à Digne, vous avez...
Ah oui,
vous avez retrouvé la Provence.
Inconsciemment.
Inconsciemment, voilà. Alors, ce travail de libraire, je pense qu'il a des côtés dans une maison de la presse. Hein. Il y a des côtés un petit peu plus difficiles et compliqués. Moi, je voudrais revenir sur la place de la presse, justement. Parce que ça paraît, le nombre de titres est absolument énorme.
Oui.
Et je me demande toujours comment vous vous y retrouvez, comment on choisit, est-ce qu'on choisit d'abord ? Est-ce que, voilà.
Mais la presse prend beaucoup de place. Nous avons à peu près 3500 titres en magasin. Ouf. Et c'est un travail de tous les jours. On ne choisit pas nos titres. On reçoit au travers des MLP, donc les maisons de la presse, et des NMPP, qui sont deux grands diffuseurs de presse, qui les envoient à un distributeur ici sur chaque région, après à son distributeur, son diffuseur. Excusez-moi, je ne connais pas bien les termes.
C'est mon mari qui s'en occupe.
Mais en tout cas, nous ne choisissons pas, nous recevons tous les jours de la presse. Tous les jours de la presse, pourquoi ? Parce que certains titres sont quotidiens, certains hebdomadaires, certains mensuels, bimensuels. Et nous gérons ces stocks par le biais de l'informatique,
qui nous envoie des
bordereaux de livraison que l'on doit vérifier tous les jours.
Alors, la profane que je suis, y a des titres qu'on voit une fois, deux fois, et puis qu'on ne voit plus après. Et ça, j'ai l'impression que ça arrive quand même assez souvent. Donc, comment on fait pour s'y retrouver dans ce dédale ?
Nous avons un logiciel qui nous permet de nous informer sur la vie des titres. Donc, ce qui fait qu'on ne choisit pas, finalement, qu'un titre continue ou s'arrête. Mm-hmm. Mais on peut renseigner le client sur le devenir de ce titre.
D'accord. Et il y a des revues qui sont là depuis très très longtemps. Certaines sont très chères, je pense à la revue Esprit en particulier. Hein. Mais on trouve vraiment tout, hein, depuis l'histoire du cerveau jusqu'à tricoter aujourd'hui, même avec la pelote de laine et le crochet, dis donc.
Oui, il y a beaucoup de petits objets qui vont avec, d'ailleurs qui prennent beaucoup de place dans le magasin. Mm-hmm. C'est quand même une difficulté tous les jours de devoir ranger tout ce... tous ces titres. Mais il y a quand même des titres qui restent et qui sont présents, effectivement, du cerveau à la couture, à la cuisine, à la psychologie, aux voitures. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Mais la presse, c'est quand même devenu, effectivement, assez cher. Je pense que comparativement à la librairie, il n'y a plus tellement de différence.
Oui, c'est vrai qu'une revue coûte facilement 5 euros, 6 euros. Et parfois, on préférera choisir peut-être un livre ou... Enfin, je ne sais pas si ça se joue là, mais c'est vrai que les revues sont très chères.
Mais les revues nous amènent aussi de la clientèle sur le livre, hein, parce que chaque revue maintenant, pas toutes les revues, mais à chaque thème son livre, hein, et ça amène le client à avoir envie de lire un titre ou un autre qui est présenté justement dans un magazine.
Il y a aussi les magazines féminins dans lesquels on trouve des critiques de livres,
oui,
et qui, je suppose, sont très demandées.
Le magazine, oui, Elle, par exemple, Femme Actuelle, on va dire...
Oui, Avantage, Prima, tout ça, oui. Il y a aussi des critiques, c'est du livre qu'on demande, qui est du livre grand public, mais de qualité quand même. Et puis les critiques sont souvent simples, mais pas inintéressantes.
Et puis l'Express, voilà. Le Nouvel Obs, tous ces magazines offrent aussi un panel, et même une liste de ventes, de meilleures ventes, des tops de ventes en librairie, qui est quand même un bon guide pour les gens qui sont pas très informés au sujet du livre.
Oui, parce que tout le monde ne lit pas Le Monde des Livres ou Libé, quoi.
Non.
Hein, voilà. Avant de faire une petite pause musicale, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes d'un livre un peu ancien d'Odile Massé qui s'appelle La Femme Poussière, par rapport à la revue, justement. Il fait frais. J'aime l'odeur du café. J'aime le cliquetis des cuillers et des tasses qu'on déplace. J'aime la couleur du café, j'aime le livre. J'aime le livre et j'ai oublié mon livre. J'attends. Je regarde le plafond. Tout près de moi, il y a une banquette, étalée là-dessus avec ses photos d'inconnus célèbres. J'attends. J'attrape une revue, je feuillette ses pages et n'éprouve aucune jouissance. Le contact rêche et fluide à la fois ne me plaît pas. Elles font un bruit infernal quand on tourne les pages, elles se plissent, elles se déchirent, elles me noircissent les doigts. Moi, j'aime le vélin pur. J'aime le papier bible, le papier glacé, gaufré, vergé. J'aime les pages souples et résistantes, les reliures qui craquent, les caractères denses et profonds, les vignettes, les reproductions en pleine page. J'aime qu'une feuille imprimée soit compacte et supporte la poussière. Mais cela, le journal, ça sent le travail trop rapide, la chose inutile, faite pour être à peine lue, jetée. Société, reflet du monde, loto, région, sport, les gros titres défilent et n'ont pas d'intérêt pour moi. J'aime les cotes de la bibliothèque, moi. J'aime les livres dans les librairies, moi. Voilà.
C'est très... ça me parle beaucoup, ce texte. Et je dirais que je suis un peu comme cette femme. C'est vrai que le papier journal, c'est pas mon truc.
C'est un très joli livre, un petit peu ancien, hein, je ne sais plus de quelle année il est, mais oui, de 92. Mais j'avais bien aimé ce regard à la fois sur le livre s'appelle lui-même La Femme Poussière, hein, et ces comparaisons, tout le livre est émaillé de ce genre de réaction, coup de cœur et coup de gueule. On écoute un peu de musique.
Edith Wharton's lovely figurines still speak to me today from their mantelpiece in time where they wrestle and they play with passions and with prudences, finances and fears, her face what it's worth to her. In the passing of the years, see the portrait come to life, see the vanity behind. Cause in the struggle for survival, love is never blind. Now Olivia lies under anesthesia. wonder snuffed in a routine operation. Her own beauty not enough, her passions and her prudences, her finances and fears, her face what it's worth to her. In the passing of the years, see the portrait come to life, see the vanity behind. Cause in the struggle for survival, love is never blind. Edith Wharton's lovely figure still speak to me today from their mantelpiece in time, where they wrestle and they play. We lie under anesthesia, our wit and wonder snuffed in our routine operations. Our own beauty not enough.
Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Monsieur Jules Renard a dit ça. Et vous, Emmanuel, alors, vous lisez beaucoup, dites-vous, mais les revues, vous lisez des revues ?
Non, pas trop.
Non, pas trop. Pourquoi ?
J'ai une revue, pour moi, c'est un article, puis un autre, et puis encore un autre, et ça se disperse un petit peu. Et j'aime prendre un livre et commencer une histoire et aller jusqu'au bout de l'histoire, quelle qu'elle soit. Après, il y a des articles très intéressants. C'est pour ça qu'une revue, je ne la lirai jamais en entier. Je prendrai un article, je lirai l'article et je pose la revue et je passe à autre chose. Mais je suis moins intéressée par les revues que par les livres.
Bon, ben on va supprimer les revues de la Maison de la Presse.
Non, non, parce que c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde. C'est,
bien sûr.
Beaucoup de gens aiment s'informer de cette façon. C'est un moyen de trouver une revue financière, une revue psychologique, une revue qui va parler de certains thèmes que certaines personnes ont envie d'aborder au moment présent et...
Tout à fait. Et puis, il y a aussi des revues sur le plan scientifique ou informatique, par exemple, qui font bien le point, alors même que le livre est déjà obsolète dès que paru, par endroit. Donc il y a ce type de revue-là aussi. Mmh. Et alors, pour les enfants, les revues ou les livres, qu'est-ce qu'ils viennent voir, a priori, chez vous ? Est-ce que, accompagnés des grands-parents, des parents, comment ça se passe ?
Oh oui, les enfants, les petits sont accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils filent directement aux revues pour enfants qui sont bien face à l'entrée. Donc tout droit, on va à la revue, on va au rayon enfants. Et à côté, nous avons aussi notre rayonnage de livres pour enfants. Ce qui fait que les enfants font le tour et choisissent un petit peu des... De tout.
Et est-ce qu'il y a, j'ai pas fait attention, est-ce qu'il y a du matériel d'accompagnement avec les revues enfants, des puzzles, ce genre de choses, comme on trouve les sacs ou les pelotes de laine?
Oui, il y a de tout.
Oui.
Il y a des petits jeux, il y a des petits puzzles, il y a des petites ardoises de temps en temps, il y a un peu de tout.
D'accord. Alors Emmanuel, la librairie de la Presse, c'est combien de personnes?
Nous sommes moi et mon mari. Plus, ce sera plus facile par les prénoms, Laetitia, Sandrine, Anthony et Sybille. Nous sommes 4 et 2, 6.
6 personnes. Une amplitude d'ouverture énorme, hein,
oui.
Puisque c'est ouvert tous les jours de la semaine.
6h30 jusqu'à 7h30 le soir, du lundi au samedi et le dimanche matin.
Et oui. Et alors, dans ce personnel-là, est-ce que chacun a une spécialité ? Tout le monde s'occupe de livres ou pas du tout ? Comment ça se passe ?
Alors, Michel, mon mari, et Laetitia sont quand même les spécialistes de la presse. Et nous, les quatre autres, sommes plus responsables de la librairie. Nous essayons d'être...
Complémentaires
et polyvalents. Et chacun sait ranger la librairie, chacun sait recevoir des cartons de livres, les enregistrer, les intégrer au stock, les ranger, les mettre en, en rayon et en vitrine. C'est sympa parce qu'on a tous, on partage tous le travail de la librairie. Et ce qui fait que, bon, on voit tous arriver les nouveautés. Même les gens du matin, même ceux du matin, même le personnel du matin qui s'occupe de la presse arrive à gérer un petit peu. D'ailleurs, Laetitia, notre jeune fille qui est là depuis pas mal d'années, notre plus ancienne, s'est mise progressivement à lire grâce à ce travail qu'elle a découvert.
D'accord. Et alors, pour promouvoir le livre, je crois que vous accueillez également des auteurs locaux. Vous faites des signatures.
Oui, tout à fait.
Et là, comment ça se passe, alors ?
Nous contactons d'abord les auteurs qui...
Sur quels critères, je dirais ? C'est un coup de cœur ? Vous savez que l'auteur est dans les parages ?
L'auteur est dans les parages.
D'accord.
D'ailleurs, c'est un auteur dans les parages qui est souvent client aussi. Mmh. Et qui vient nous parler de son livre à venir, de son roman, et pourquoi pas. Bon, on lui dit, écoutez, on peut organiser une signature et on peut...
Oui, ça permet aux gens de parler avec l'auteur, parce qu'ils n'ont pas encore lu le livre, mais ils le découvrent en même temps. Donc...
Tout à fait. Puis il y a des auteurs qui sont bien sympathiques, et puis ça leur fait plaisir. On n'a pas forcément beaucoup de ventes sur les livres le jour de la signature, mais ce qui est agréable, c'est de voir les clients arriver, à venir chercher un livre ou venir même s'arrêter sans acheter, discuter avec l'auteur. Nous avons beaucoup eu Pierre Magnan.
Ah oui.
Qui était un monsieur très sympathique et très agréable, et puis qui attirait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup, beaucoup d'anecdotes à raconter.
Et puis on n'avait pas besoin de lui poser des questions.
Non,
à lui,
c'était,
hein.
c'était spontané. D'ailleurs, ce sont des livres, je n'ai pas lu énormément d'auteurs locaux, mais Pierre Magnan, j'en ai lu quelques-uns et j'ai beaucoup apprécié. C'est un auteur qui nous manque un petit peu parce qu'il nous animait un petit peu. Quand il venait, il était, c'était quelque chose. Pour nous, dans le magasin, c'était une présence sympathique.
Alors, vous diriez que c'est une des rencontres qui vous a le plus marqué ?
Oui. Oui, on a eu aussi René Frény que vous avez reçu, qui est venu signer au magasin. Et c'est dans le même topo. Il est très ouvert, il parle beaucoup. Il faisait chaud, c'était l'été, il s'était mis dehors avec une table, une chaise. Et puis tout le monde s'est arrêté pour parler. Et tout le monde, sans toujours forcément acheter des livres, c'est le dialogue qui comptait. Parler de lui, parler de ses livres, parler de... C'était sympa. En rencontre, oui, ce sont des belles rencontres bien sympathiques. Mais moi, j'en ai d'autres rencontres qui sont liées aussi... moi, j'aurais envie de parler un petit peu de cette femme qui a tenu la librairie pendant tant d'années, Madame Simone Guichard, qui a presque 80 ans maintenant. Et je la trouve admirable parce que c'est une femme qui nous a beaucoup... beaucoup enseigné dans ce domaine de la librairie, qui est venue nous voir, qui est venue nous conseiller, qui est venue nous commander des livres aussi d'ailleurs, et qui encore aujourd'hui, à plus de 80 ans, je crois que d'ailleurs elle s'est abîmée les yeux à lire tellement elle est passionnée de lecture. Elle travaille encore à commander des livres pour une bibliothèque et... à être au top de l'actualité littéraire. Elle est formidable. Voilà.
Et elle vient toujours donc à la librairie.
Oui,
vous
oui.
parlez de livres avec elle.
Elle est, oui, moi, je n'ai pas vu depuis quelque temps. Là. Bon, c'est peut-être plus difficile pour elle de se déplacer, mais elle vient aussi avec une de ses filles. Elle est toujours présente, ou c'est moi, ou c'est mon mari, ou c'est d'autres. Elle discute volontiers. C'est un plaisir.
Donc, les lecteurs, on va dire, hein, ont le temps de discuter avec vous de livres. Comment ça se passe là? Moi, j'ai envie de lire un polar. Je ne sais plus très bien de qui il est. Je sais que ça parle de ceci ou de cela, que ça se passe là. C'est Emmanuel, c'est Michel, il y a quelqu'un? Vous cherchez? Comment vous faites?
Alors, c'est Emmanuel, c'est Anthony, c'est Sandrine, c'est Sybille, parce qu'on a tous plus ou moins une préférence dans nos lectures, c'est... Bon,
évidemment.
C'est comme
évidemment.
Ça. Et quand quelqu'un va chercher un polar, tu peux renseigner la personne. Et effectivement, on prend le temps de le faire, puisqu'on est en général trois au magasin l'après-midi. Je pense qu'il est important, quand un client vient nous demander un livre, de prendre le temps d'en parler et de lui parler de ce que nous on a apprécié, de ce qu'on a entendu, des critiques de ce livre. C'est un partage, en fait. Moi c'est ça que j'aime finalement aussi dans le métier de libraire, c'est que le client va venir demander de l'aide, mais nous aussi, on a de l'aide des clients. C'est-à-dire beaucoup de gens nous ont dit « Ah, vous avez lu ça ? Oh, ce que vous m'avez conseillé là, c'était formidable. Vous en avez un autre à me conseiller ?» Enfin, c'est un échange permanent. C'est très chouette.
Alors, vous le dites très bien, passionné que vous êtes. Et moi, je vais m'amuser à vous lire un petit texte que j'ai sorti d'Un homme à distance, du bouquin de Catherine Pancol, hein, qui est une succession de lettres. Et donc, elle est libraire. Alors, puisqu'Emmanuel ne nous a pas décomposé complètement un emploi du temps, on va essayer de le retrouver avec Catherine Pancol. Mmh. J'ouvre à 8 heures. Les gens d'ici se lèvent tôt. Je fais le ménage, je remets les volumes droits sur les étagères, je rétablis l'ordre alphabétique. J'aligne mes préférés sur les tables. Je reforme mes piles, ouvre la caisse, en vérifie le contenu, m'assure que j'ai de la monnaie, surveille les fiches de chaque livre, passe mes commandes au distributeur, m'assure que les grosses livraisons arriveront à temps, fais le point avec le coursier. J'ai été obligée d'aller 2 fois à Paris en l'espace de 10 jours pour chercher des livres d'art qu'ils avaient oublié de m'envoyer et qu'une passe cliente attendait pour les vacances. Et puis ça continue. C'est la période des fêtes, chacun cherche le cadeau idéal. Hier, un client m'a demandé un roman d'amour pour faire comprendre à son ami le soir de Noël qu'il l'aimait. Il n'osait pas se déclarer. J'ai passé une demi-heure avec lui et finalement je lui ai conseillé « Amour de perdition » de Camillo Castelobranco. Un roman enfiévré, fou comme on n'en écrit plus. Il a aimé, il s'est perdu et il est mort en aimant, annonce le prologue. Les deux amants s'aiment par lettres et bravent toutes les tempêtes. À la fin, il ne reste d'eux que leur correspondance qui dérive sur les flots. C'est magnifique. Mon client, heureux, est reparti, confiant. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai eu une boule dans le ventre pendant presque toute la journée. J'en tremble encore. Car chaque client veut être traité comme s'il était unique au monde. Si je fais référence à un autre client, à une autre demande que la sienne, à un autre quidam, il se froisse et revient tout sur lui. Faut dire aussi que c'est l'époque du n'importe quoi. Une cliente m'a soutenu mordicus qu'il existait un livre qui s'appelait « Légumes du jour ». Son gamin le lui réclamait pour l'école. J'avais beau ne rien trouver qui corresponde, elle s'énervait, postillonnait, répétait « Légumes du jour, légumes du jour » et me considérait comme si j'étais une véritable idiote. Jusqu'à ce que la lumière se fasse en moi et que je traduise « L'écume des jours de Boris Vian, bien sûr. Ils me sortent des petits bouts de papier tout chiffonnés, prononcent des énormités. L'un cherche les chaussures de Scapin pour les fourberies de Scapin, la maîtresse de Duras et la carotte de Jules Renard. Les fous mon ailleurs au lieu des faux monnayeurs de Gide. Ils notent des titres de livres n'importe où, sur la liste des courses pour le marché, au dos d'un ticket de caisse. J'en bout de rage. Je voudrais leur enseigner le respect, mais je n'en ai ni le temps ni les moyens, car en plus ils me fusillent du regard si je les reprends et me permet de corriger leur énoncé. Non, monsieur, le Cid n'est pas de Molière, pas plus que l'avare de Racine. Mais oui, Molière existe, mais bien sûr, Racine est enseigné dans l'école de ma fille. Bien sûr, madame, mais vous mélangez tout. Ce métier, ce n'est pas évident, et cela prend de l'énergie, beaucoup d'énergie, et des trésors de patience. Le soir, je m'écroule sur mon lit. Je n'ai plus la force de vous écrire. Je n'ai plus la force de lire, ni même de regarder la mer. Je pique du menton dans mon oreiller et rêve d'une plage sous les cocotiers où je pourrai enfin lire Rilke. J'en suis toujours à la page 33.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Emmanuel, je vais commettre une indiscrétion. Parce que hors antenne, vous nous avez dit, c'est vrai tout ça, mais je n'aurais pas osé le dire. Et c'est vrai, ça arrive aussi en bibliothèque, hein, ces demandes un petit peu farfelues.
J'avoue que des fois, c'est ce que je pensais, c'est dans le libraire comme le bibliothécaire a affaire à parfois des personnes qui sont très sûres de ce qu'elles demandent. Tout le monde on peut tous commettre des erreurs. On n'a pas tous lu nos classiques, hein, c'est évident. Mais c'est assez rigolo parfois comme ils présentent les choses. Et surtout les titres, comme ils sont déformés, c'est très drôle. Et je trouve que Catherine Pancol a très très bien décrit le métier de libraire, du début à la fin. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, je vais le lire.
Ah, ben voilà, vous avez bien fait de venir, Emmanuel. Vous repartez avec un livre. Alors, si nous reprenons un petit peu le cours de ce travail, les nouvelles technologies, toute cette masse d'images, etc., est-ce que vous avez le sentiment que le métier de libraire se transforme ? Est-ce que, par rapport à votre travail, hein, à vos activités, est-ce que... Voilà, il y a des changements qui seraient liés à ça ou à autre chose. Hein.
Des changements, il y en a, oui, un petit peu, parce que le livre se vend quand même un petit peu moins. Internet prend quand même pas mal de place dans le monde de l'achat en
livre
en
papier,
ligne,
oui,
mais en livre, oui. Ah, etc. Mais l'achat en ligne en général, hein, bon, et pour le livre également. Et même au niveau je dirais, c'est par rapport à cette crise que la société vit actuellement, le monde de l'édition, de la diffusion, il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de rachats. Et par souci d'économie aussi, il y a beaucoup
de regroupements.
Donc les forces commerciales sont diminuées, des représentants qui ont des secteurs beaucoup plus larges, qui ont forcément moins de temps pour passer chez nous. Effectivement, nous, notre travail change. Enfin, il change. C'est pas qu'il change, mais on doit beaucoup plus s'informer. On doit devenir beaucoup plus performant. C'est-à-dire qu'on doit suivre beaucoup plus l'actualité littéraire que ce que l'on ne faisait avant. C'est-à-dire beaucoup plus présent dans...
Ah, mais donc c'est très formateur pour vous, tout ça, finalement.
Ah,
ça
oui,
vous
oui,
oblige
oui.
à être plus vigilant, en veille probablement plus.
Exactement.
Donc les représentants, etc., ne suffisent pas à votre travail, si j'entends ce que vous dites.
Pas complètement. Ah si, heureusement qu'ils sont là.
Oui,
tous
sûr.
Ne passent pas, tous ne peuvent pas passer. Mais j'avoue que le travail avec un représentant est pour moi plus efficace et plus agréable s'il passe, parce que s'il ne peut pas passer, il va nous envoyer par Internet ou par courrier, toutes les nouveautés qui vont arriver. On travaille sur quelques mois, en fait, deux mois à l'avance. Hein. C'est-à-dire qu'à bientôt, nous allons travailler... Je dirais que bientôt, nous allons travailler la rentrée de septembre, par exemple.
Salon du livre du mois de mars, rentrée de septembre. Eh oui.
Voilà.
On raccourcit, on vieillit de plus en plus vite.
Très
dans
vite,
cette...
très, très vite.
Dans la librairie aussi.
C'est vrai que ce que dit Catherine Pancol à la fin, le petit voyage, la plage ou les cocotiers, parfois on en rêve un peu aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est un travail permanent que de vouloir avoir, de vouloir satisfaire aussi sa clientèle. Et c'est vrai que, comme elle disait, on peut, un client peut sortir confiant. On lui a conseillé un livre, on lui a parlé de ce qu'on a aimé. Et revenir. Bon.
Oui, enfin, cela dit, le livre d'amour, quel conseil, Je ne suis pas sûre que ce soit un choix des plus pertinents, parce que quand même, c'est la preuve que l'amour est souffrance. Et même si la souffrance est belle, peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait... Enfin, c'est anecdotique, hein, mais
c'est vrai.
C'est rigolo.
Il n'y a pas que souffrance non plus. C'est-à-dire qu'il y a des beaux... Il doit y avoir des beaux passages aussi.
C'est vrai que c'est difficile de conseiller. On n'est pas dans la peau de l'autre. C'est pareil en bibliothèque. Hein. La façon dont on va proposer un livre à un lecteur, c'est parfois très, très simple parce qu'on a l'habitude du lecteur, parce qu'on le connaît. Mais d'autres fois, c'est un petit peu plus galère. Un petit peu plus galère. Et les jeunes, alors, est-ce qu'ils lisent, les jeunes?
Moi, pour moi, les jeunes lisent, oui. Pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la situation n'est pas inquiétante. Et ils commencent, c'est vrai qu'on en a parlé déjà, je pense que déjà ils commencent par, on leur reproche beaucoup d'être sur leurs écrans, d'être sur le téléphone portable, l'ordinateur, la télé. Ils piochent quand même déjà pas mal d'informations dans ces moyens, dans ces systèmes.
Oui, les blogs, les rencontres.
Voilà. Je ne dis pas que tout est forcément une lecture passionnante, mais tout ce qu'on lit est à lire de toute manière. Hein. C'est, pour moi, la lecture n'est pas... On ne doit pas avoir d'a priori en priorité. Quand on aime lire, on lit ce qui nous...
tombe sous la main.
Ce qui nous tombe sous la main, ce qui nous plaît, la couverture d'un livre, le résumé, la personne qui nous en a parlé, c'est pas un auteur, c'est quelque chose qui nous procure quelque chose, qui nous amène loin. René Fréni l'a dit, qui de l'émotion. Il faut qu'il y ait de l'émotion. C'est-à-dire qu'à la 10e page, si j'ai pas accroché,
tombe des mains, voilà. Vous le laissez?
Ouais. Des fois, j'y arrive pas. Hein. Je laisse.
On a les droits imprescriptibles du lecteur, le droit de ne pas finir un livre. Alors, puisqu'on en est dans ces livres-là, vous avez quelques coups de cœur, voire coups de gueule, à nous faire partager, là?
Moi, j'ai pas mal de livres qui... Ça ne veut pas dire que je ne lis pas tout ce que je voudrais lire, hein, bien sûr, malheureusement. Mais dans mes coups de cœur, il y en a quelques-uns que... En fait, je sais pas comment vous dire. En fait, je lis beaucoup de choses. J'aime des auteurs. J'aime des auteurs connus, pas connus. Pour moi, la lecture, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Je regarde, je vois une couverture arriver, une belle couverture, un titre qui me plaît. Je regarde le résumé. Je vais l'entamer. Mais je vais aussi écouter la cliente qui va me parler d'un livre ou ma collègue, parce que finalement, entre nous, on partage beaucoup de choses et on se conseille des lectures. C'est ça qui est chouette, c'est que bon, une aime la psychologie, un aime le policier, l'autre aime l'actualité. Je ne suis pas très dans le livre politique, je m'informe à côté, mais j'essaie quand même de m'informer suffisamment pour pouvoir renseigner le client qui va demander... voilà. Enfin, dans
alors, le coup de cœur,
c'est un vieux livre que j'ai lu... j'étais quand même jeune. Je ne suis pas vieille, mais j'étais jeune. C'était un roman de Anne Delbé. C'était une femme.
Ah oui, une femme. Un merveilleux livre.
Ça m'a fait découvrir le roman historique, le roman... c'était l'histoire de
Camille Claudel.
De Camille Claudel, qui a vécu dans l'ombre de son mari mentor de Rodin. Voilà, c'était passionnant, c'était une belle histoire et une femme qui s'est battue et une femme de talent qui...
Très beau livre, effectivement, il n'est pas très jeune, mais c'est un livre à conseiller encore. Il est toujours en poche, je crois.
Oui, mais je le conseille pour les personnes en général qui aiment le roman... le roman biographique, le roman historique, parce que j'aime beaucoup les romans historiques, en fait.
Un autre.
Mais c'est un petit peu... Marek Alter, voilà. c'est un auteur qui me plaît énormément, qui écrit des romans historiques beaucoup sur la religion, quelle qu'elle soit. C'est la religion, les chrétiens, les catholiques, les juifs, les musulmans, et actuellement, si je peux me permettre, il écrit sur les femmes de l'islam. Voilà. Donc j'ai commencé cette trilogie qui est passionnante, qui est très bien écrite. C'est très...
c'est, de toute façon, c'est lui, hein, Marek Alter, ce sont toujours des livres qui font naître l'image, hein, qui sont très visuels finalement, et qui en plus nous apprennent toujours beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, et sans a priori, sans jugement. Donc, une culture qu'il a sur toutes ces religions qui est passionnante. Et en plus, c'est quelqu'un, pour moi, qui a l'air d'être très tolérant et très... En fait, on a l'impression qu'il voudrait que tout soit...
Que tout soit réuni, tout à fait.
Réconciliez-vous, il a écrit... Ouais.
Vous me renvoyez vers une phrase que j'avais notée, une phrase qui n'est pas toute jeune non plus, qui est une phrase d'André Mauroy, et qui dit « Si les hommes comprenaient mieux les dangers que comporte l'emploi de certains mots, aux devantures des libraires, les dictionnaires seraient enveloppés d'une bande rouge, explosif, à manier avec soin. » J'aime beaucoup.
C'est vrai qu'on doit faire très très attention à la parole, à tout ce que l'on dit.
C'est très très bien. Pour les jeunes, ou une nouvelle revue ou quelque chose d'autre qui aurait attiré votre attention?
Pour les jeunes?
Éventuellement, oui, si vous en avez l'envie.
En revue, je ne saurais pas vous...
Alors, Sciences et Vie Junior sort toujours beaucoup.
Ah, Sciences et Vie Junior sort toujours. Le Petit Quotidien pour les enfants est une... C'est play.
Ouais.
Et puis sinon, toutes les revues comme Okapi, comme...
J'aime lire toujours.
J'aime lire d'ailleurs qui est aux éditions Bayard et qui fait aussi des livres, hein, qui sont bien pour la jeunesse. Nous, en jeunesse, on vend pas mal de mangas. De mangas, de BD.
Et oui, les mangas.
Et puis tous ces livres qui passent en film, donc des livres fiction, des livres jeux de guerre, mais aussi des romans de vie. Des romans de vie comme moi j'aime aussi, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais Nos étoiles contraires. Ce beau, c'est une belle histoire, mais très, très dure, très triste. On a la larme à l'œil. Et beaucoup, moi, je vois que beaucoup de jeunes, beaucoup de monde l'a acheté, et surtout beaucoup de jeunes.
Mmh. Oui. C'est... La lecture est toujours d'actualité.
La lecture toujours, est d'actualité quoi. Chez les jeunes encore, oui. Mmh. Parce que, quelle que soit la lecture, moi, pour moi, un livre est à lire parce que on doit prendre plaisir à rentrer dans le monde de ce livre, dans ce roman. Et
ça construit la lecture quand même. Hein,
oui, elle construit. Mmh.
C'est un métier fascinant que vous faites. Donc, c'est un métier, je l'ai dit tout à l'heure, qui est un métier probablement un petit peu différent lorsqu'on est dans une librairie Maison de la Presse et lorsqu'on est dans une librairie, j'allais dire, traditionnelle ou spécialisée, ou etc. On n'a pas du tout parlé de la place du tabac là-dedans. Et moi, il y a un truc qui m'interroge.
Moi, je dirais que le tabac, c'est un produit d'appel.
Bon.
Ben, beaucoup de monde fume, beaucoup de gens fument. Nous avons pris le tabac à l'époque, nous étions juste maison de la presse et libraire. Et nos confrères sur le trottoir d'en face vendaient leur boutique et ont proposé à mon mari de prendre le tabac. Donc, il a repris le tabac en pensant qu'effectivement, ça faisait un produit de plus.
Ça fait un ensemble.
Ça fait un ensemble. Les gens fument, les gens... Lise, d'ailleurs, ça fait partie, c'est un titre d'un livre qui m'avait pas mal plu aussi. Des gens relisent et boivent du café. Ils prennent le journal, ils prennent un chewing-gum, un paquet de chewing-gum, un bonbon, et c'est, voilà, c'est...
Et puis ils reviennent pour acheter un briquet.
Ils reviennent pour acheter un briquet, c'est tout un monde qui passe à la
pas
maison,
pour mettre
c'est
le feu au livre.
Non.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire, là, pour conclure cette petite aventure d'une petite heure? Ah, un grand silence et un air très, très, très... Elle va chercher très loin, là.
Je suis contente d'être venue parler de ce métier de libraire. J'espère que ça a pu être entendu comme moi j'ai essayé de le faire passer. C'est-à-dire que c'est quand même un métier qui est passionnant, qui n'est pas facile, mais qui est passionnant. Et la lecture... Bah, la lecture apporte apporte beaucoup de plaisir, apporte beaucoup d'émotions. Et on a un tel choix maintenant dans tous les auteurs que je suis sûre que même quelqu'un qui rentre dans une librairie qui dit « je n'aime pas lire » peut ressortir avec un livre et l'apprécier. C'est tellement agréable de voir revenir des clients et de dire oh, « ce que vous m'avez conseillé, c'était tellement chouette, vous avez autre chose ?»
Et vous concluez presque sur une phrase alors, dont j'ai complètement oublié l'auteur, qui dit « une librairie, c'est l'endroit où l'on pense trouver ce que l'on cherche et dont on ressort souvent avec les livres auxquels on n'aurait jamais songé. »
C'est vrai, et beaucoup de clients nous le disent.
Et oui. Bien, et bien merci Emmanuel.
Merci à
et
vous.
Et puis à très bientôt à la librairie. Je profiterai de l'occasion qui m'est donnée là pour vous dire que le mois prochain, nous recevrons une lectrice. On aura ainsi fait un petit voyage qui va de l'auteur au lecteur et nous reviendrons par la suite sur d'autres libraires et d'autres librairies. Et puis, au fil du temps, au fil des mots, on choisira toujours des choses qui, je l'espère, donnent des idées, des envies, et puis peut-être permettent de connaître un petit peu mieux ce domaine qui tourne autour des mots et autour des livres et autour de la poésie et autour de tout cela. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir et merci.
Merci, au revoir.
ravaged my body and bitten my soul. I'm ruined by rain, weathered by wind, been invaded without and within. And I ask, I am asking you, asking you if you might still want me. And I ask, asking you if you might still want me. What you say? Ravaged my body, bitten my soul.